Je vais vous dire une nouvelle fois, je suis très heureuse d'être ici, je vous remercie de l'invitation. Et vous dire aussi, je suis désolée parce que vous allez avoir une conférencière enrhumée, ce qui est beaucoup plus pénible pour vous que pour moi. Je vais vous parler de saint Ambroise, père de l'Église, comme vous ne l'ignorez pas, et qui est aussi l'une des plus belles figures des débuts du catholicisme. Saint Ambroise naît à Trèves, en Allemagne, probablement en l'an 340. Il appartient à une très grande famille de l'aristocratie romaine. Son père est préfet du prétoire des Gaules. Alors, préfet du prétoire des Gaules, c'est un des quatre grands administrateurs de l'Empire. Et quand je vous parle de la préfecture des Gaules, il s'agit en fait d'une entité administrative qui couvre le territoire de la France actuelle, bien entendu, mais également la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal et la Grande-Bretagne. Autrement dit, Aurelius Ambrosius dirige, d'un point de vue civil, un grand quart de l'Empire romain, ce qui n'est tout de même pas rien. Aurelius Ambrosius a probablement été nommé à ce poste par l'empereur Constantin II, qui était son ami. Constantin, le grand Constantin, est mort en 337. L'Empire a été partagé entre ses trois fils survivants, Constantin II, qui règne sur l'Occident, Constance, qui a hérité de l'Orient, et Constant qui a hérité des petits bouts que ses deux frères ont bien voulu lui laisser, c'est-à-dire d'un petit morceau des Balkans, et ça ne tardera pas à très mal se terminer. Tellement mal, d'ailleurs, que dès 341, Constant, qui se demande pourquoi il a hérité des petits morceaux et pourquoi ses frères ont tout, va déclencher une révolte contre son frère Constantin II. Les circonstances en restent un peu obscures, mais le fait est que Constantin II va disparaître, manifestement de mort violente, et que son frère, le tendre Constant, va mettre la main sur sa part d'héritage et qu'il va liquider tous les proches de son frère. Parmi eux, bien entendu, le préfet du prétoire des Gaules, Aurelius Ambrosius. Notre futur saint Ambroise a donc à peine 18 mois lorsque son père disparaît. Sa mère, dont nous ignorons le prénom et le nom, ce qui ne veut pas dire que son fils ne l'aimait pas, c'est tout le contraire, mais à l'époque, on n'avait pas la même conception des rapports intimes, donc Ambroise comme Jérôme ne nous diront jamais comment s'appelait leur mère. Donc la veuve d'Aurelius Ambrosius va repartir pour Rome avec ses trois enfants, Ambroise, le dernier, la fille aînée, Marcellina, la future sainte Marceline, et un autre garçon qui est entre les deux, qui porte le curieux prénom bien païen pour une famille parfaitement catholique, d'Uranius Satyrus. Alors on a dit parfois que des Aurélie et Ambrosie avaient peut-être des ascendances grecques, ce n'est pas totalement impossible, ça expliquerait le prénom de Satyrus. Voilà donc la veuve rentrée à Rome avec ses trois enfants. Heureusement, elle possède une fortune assez considérable qui n'a pas été confisquée. Les Aurélie sont extrêmement riches, ils possèdent notamment des propriétés, des latifundia gigantesques en Sicile et en Afrique du Nord. C'est cette énorme fortune qu'elle va gérer en attendant la majorité de ses enfants. C'est une famille catholique, je vous l'ai dit. Avec cette particularité, mais à l'époque c'est relativement banal, que ces bons catholiques ne sont pas baptisés. Pourquoi ? Eh bien, parce que, comme vous le savez certainement, la confession telle que nous la connaissons ne sera réellement instaurée dans les formes normales qu'à partir du 5e siècle et notamment sous la pression des moines irlandais. Et en attendant, la confession reste quelque chose d'extrêmement rare. On ne peut pas faire pénitence plus d'une ou deux fois dans sa vie, au prix d'ailleurs d'exigences absolument terrifiantes. Et ajouter à cela ce détail toujours plaisant et rassurant que le secret de la confession n'existe pas. et que par conséquent, en allant se confesser, on prend des risques considérables. Voilà donc pourquoi, dans beaucoup de familles catholiques, en tout cas s'agissant des garçons, on se garde de les faire baptiser. Il faut bien que jeunesse se passe. Plus tard, ils seront baptisés, plus ils laveront de péché, moins ils auront de chances de recommencer. Il n'est pas rare que des gens parfaitement catholiques, du moins d'intention et d'éducation, ne se fassent pas baptiser avant l'âge de 40 ou 50 ans. C'était le cas du père d'Ambroise, qui est mort sans avoir jamais été baptisé. Ce qui est évidemment un peu compliqué. Cela ne va pas empêcher la mère d'Ambroise d'élever ses enfants parfaitement bien. Elle a fait baptiser la fille, Marcellina, tout le monde sait que les filles pêchent moins que les garçons. Mais les deux garçons, il n'en est pas question. Et c'est d'autant plus gênant que les seuls parents proches et influents qu'il reste à Ambroise et à son frère, ce sont leurs cousins germains, les Aurelii Symmachi. Et là encore, c'est assez fréquent à Rome à l'époque, au IVe siècle. La branche des Aurelii Symmachi n'est pas convertie. Ils sont païens, tout ce qu'il y a de plus païen, païens militants. Ça n'empêche pas qu'Ambroise est élevé avec son cousin Symmaque. Ils s'aiment beaucoup, mais leurs rapports par la suite seront tout sauf faciles. Alors, ils ont beau ne pas être baptisés, ça n'empêche pas le pape de venir rendre visite à la famille. C'est encore une époque où le pape vient se promener comme ça chez vous. Et un jour, il est donc passé chez Ambroise. Et Ambroise, qui doit avoir 7 ou 8 ans, regarde sa mère et Marcellina et toute la famille baiser respectueusement l'anneau du Saint-Père. Et à peine le pape est-il parti, qu'Ambroise commence à se pavaner dans la maison en tendant la main, il dit « Baisez-moi l'anneau, je serai évêque ». Sa mère est absolument furieuse, elle lui dit « Tu es un vilain garçon ». Et elle ne sait pas qu'Ambroise prophétise, il en sera lui-même extrêmement troublé. En attendant, son frère et lui font d'excellentes études, des études classiques d'un jeune homme de l'aristocratie romaine, la rhétorique, le droit. À 20 ans, ils sont, Satyrus et Ambroise, devenus deux brillants jeunes avocats. C'est alors que leur mère va faire appel à l'homme le plus puissant de Rome, qui se trouve être aussi un cousin éloigné, ce qui n'a rien d'étonnant parce que la noblesse romaine a tendance à se marier entre elles, de telle sorte qu'au IVe siècle, des grandes familles de l'Empire, il n'en reste plus qu'une douzaine, et un siècle plus tard, il n'en restera plus que deux, qui finiront d'ailleurs avec le pape Grégoire le Grand. En attendant, cet homme le plus puissant de l'Empire, largement aussi puissant que l'empereur Valentinien, s'appelle Sextus Petronius Probus. Ah, voilà un nom qui inspire un beau programme politique, mais Probus est tout sauf probe. Probus, c'est quelqu'un entre Berlusconi et le parrain mafieux. Tantôt plus Berlusconi, tantôt plus le parrain mafieux. Il est pourri jusqu'à l'os. Il est monstrueusement riche. C'est-à-dire qu'il a épousé une certaine Anicia qui lui a apporté une fortune gigantesque comme si la sienne n'y suffisait pas. Et comme quand on est riche, on n'est jamais assez riche, Probus passe son temps à rafler tout ce qui se présente. Il est donc milliardaire. Et comme il n'est pas regardant sur la manière dont il gagne de l'argent, il prend la fortune là où elle se trouve. Tellement qu'on commence à lui dire « Probus, tu exagères », ce qui est toujours gênant pour un homme politique. Il va alors nous faire une petite opération main propre, et la petite opération main propre va consister à faire entrer dans la haute administration ses petits cousins Ambrosi, en se disant « ce sont des garçons, tout ce qu'il y a de bien, ils débutent, ils n'ont trempé dans aucune magouille, ça va faire le meilleur effet que je leur donne un poste, on dira que je ne mets pas aux postes importants que des gens aussi corrompus que moi. » Il va nommer Satyrus et Ambroise à Sirmium, un poste qui correspond à peu près à un avocat général, si vous voulez. Sirmium, c'est une petite ville qui est aujourd'hui en Croatie, et c'est comme toutes les préfectures de l'Empire, c'est un petit monde de province assez épouvantable à regarder, avec un certain nombre de notables qui passent leur temps à se tirer dans les jambes, des gens qui ne pensent qu'à réussir et à faire fortune, et qui eux aussi sont corrompus jusqu'à l'os. Pour Ambroise, ce sera une leçon tout à fait intéressante de voir à quoi ressemble la vraie vie. Au bout de 2 ans, Probus s'aperçoit avec un certain étonnement, je n'ose pas dire avec une certaine satisfaction, qu'Ambroise et Satyrus ne se sont pas remplis les poches, qu'ils n'ont pas touché de pot de vin, enfin qu'ils sont aussi nets qu'à leur arrivée à Sirmium. Il va alors proposer à Ambroise, nous sommes en 370, l'un des plus beaux postes de la fonction publique de l'Empire, la préfecture d'Émilie Ligurie. La préfecture d'Émilie Ligurie a pour siège la ville de Milan, et comme vous le savez sans doute, depuis déjà un siècle, la véritable capitale de l'Empire n'est plus à Rome, ni d'ailleurs à Constantinople, elle est largement à Milan. Être préfet d'Émilie Ligurie, c'est d'avoir les meilleures chances de fréquenter la cour impériale et de faire fortune. Ambroise a tout juste 30 ans. C'est extrêmement jeune pour un pareil poste de responsabilité. À l'instant de lui faire ses adieux, Probus va avoir une remarque qui va beaucoup tracasser Ambroise par la suite. Il va lui dire « Eh bien, Ambroise, pars pour Milan, mais là-bas, agis en évêque et non pas en magistrat. » Ambroise est complètement interloqué, il se dit « Ce pauvre Probus, qu'est-ce qu'il a voulu dire ? C'est un humour un peu particulier. À quoi a-t-il pensé ? Je ne saisis pas. » Pourtant, il y a une espèce de doute qui va l'obséder pendant les années qui suivront. Car à Milan, il y a la cour impériale, mais il y a aussi un parti arien extrêmement bien implanté. Vous savez tous ce que c'est que l'arianisme. Il a été largement popularisé, déjà par Constantin, qui sur son lit de mort a été baptisé, mais baptisé dans l'hérésie, hélas. Et si ses deux fils, Constant et Constantin II, étaient catholiques, le dernier survivant, Constance II, lui, était arien et arien persécuteur. Lorsque Valentinien a fini par monter sur le trône en 364, Valentinien était parfaitement catholique. Mais il a dû partager le pouvoir avec son propre frère, Valens, qui, lui, était arien. Il a laissé l'Orient à Valens, où celui-ci va d'ailleurs déclencher une persécution anticatholique d'une assez rare violence. Il va garder l'Occident pour lui. Mais, et c'est là que le bât va blesser, que la vie d'Ambroise en sera bien compliquée, lorsqu'il a accédé à la pourpre, Valentinien, qui était déjà marié, a renvoyé son épouse, une pauvre fille qui s'appelait Marina Severa, qui n'était pas assez bien pour un empereur. Il a gardé leur petit garçon de 3 ans, Gratien, mais il s'est débarrassé de la mère. Et il s'est remarié avec une certaine Justine. Justine est apparentée à plusieurs empereurs. Elle est la veuve d'un usurpateur nommé Magnence. Elle a, disons, un superbe carnet d'adresses. Elle connaît tout le monde, elle a un entregent extraordinaire, elle est la femme qu'il faut pour un tout nouvel empereur. Mais Justine a un défaut absolument irrémédiable, elle est arienne. Et arienne extrêmement convaincue. Comme de surcroît, elle est remarquablement belle et remarquablement intelligente, Valentinien ne va pas tarder à filer doux, et la véritable détentrice du pouvoir, ce sera Justine. Et Justine a obtenu de son mari catholique qu'il maintienne sur le trône épiscopal de Milan l'évêque Auxence. Auxence a maintenant plus de 70 ans. Il est arrivé au siège épiscopal de Milan à la demande de Constance 30 ans plus tôt. Il a commencé par faire exiler son prédécesseur catholique, l'évêque Denis, qui a été expédié au fin fond de l'Orient, après avoir subi de telles persécutions qu'il est mort là-bas et que Denis est tenu pour un martyr, non pas pour un confesseur, mais pour un martyr. Lorsque les choses se sont arrangées, on aurait dû déposer Auxence et rendre Milan au catholicisme, ça n'a pas été le cas. Auxence est beaucoup trop puissant pour qu'on le gêne. Et non seulement Auxence est puissant, mais il a autour de lui un clergé, une population qui se sont très largement ralliés à l'arianisme. Il y a bien une poignée de catholiques à Milan, mais ce sont des lucifériens. Les lucifériens, comme vous le savez, je pense, ce sont les partisans de l'évêque Lucifer de Cagliari. Lucifer de Cagliari ayant été au IVe siècle à peu près l'équivalent de Monseigneur Lefebvre. Lucifer de Cagliari a été le seul prélat qui, lorsque Constance II a prétendu imposer l'arianisme à toute la chrétienté, a tenu tête avec un rare courage. Il a déclaré « Il faudra mourir, si nécessaire, pour la divinité du Christ ». Et beaucoup de gens l'ont suivi. Lucifer de Cagliari, eh bien, il n'a plus en quelque sorte de raison d'être dans ces années 370. L'arianisme n'a plus la puissance qu'il avait 20 ans plus tôt, mais il n'a jamais désarmé, pas plus que ses partisans. Milan est donc divisé entre des ariens plus ou moins hérétiques, parce que l'arianisme est en train de se diviser en divers courants, certains niant totalement la divinité du Christ, d'autres prônant le subordinationnisme par une mauvaise interprétation de Saint Jean, d'autres disant qu'il est peut-être le Fils de Dieu, mais pas complètement. Enfin, il y a 4, 5, 6, 10 courants ariens qui se disputent, et de l'autre donc, par nous lucifériens, ce qui fait que la situation est totalement intenable. Là-dedans, il faut que le jeune préfet apprenne à louvoyer pour ménager tout le monde. C'est une situation inconfortable. Ambroise veut très bien s'en sortir, mais il est tout de même profondément contrarié. Il a maintenant 34 ans, il n'est toujours pas baptisé. Alors, il s'est bien inscrit comme catéchumène, mais d'abord le catéchuménat dure 3 ans. Et puis, il est inscrit au catéchuménat de Milan, ce qui veut dire que le jour où il arrivera au baptême, il faudra le demander à Auxence. Et c'est impossible. Ambroise ne veut pas être baptisé par un prélat hérétique. Alors, il y aurait évidemment la possibilité d'aller se faire baptiser à Rome par le pape Damase, mais ce serait manquer gravement son devoir de neutralité de haut fonctionnaire. Tant et si bien que notre pauvre Ambroise en est réduit à repousser d'année en année son baptême, et que nous arrivons à l'année 375 sans que notre excellente Ambroise soit baptisée le moins du monde. Et que va-t-il se passer à l'automne 374? Eh bien, Auxence, on espérait ça depuis une éternité, Auxence va finir par mourir. Et c'est l'occasion rêvée, n'est-ce pas, de remettre sur le trône de Milan un prélat véritablement catholique. Mais les Ariens, qui sont puissants à Milan, n'ont pas l'intention de tolérer l'élection d'un prélat catholique. Ils ont un autre candidat sous la main, qu'ils ont déjà appelé Auxence II, tout un programme. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce mois d'octobre 374, Milan est au bord de l'émeute. Vous allez me dire, les gens ne vont quand même pas se battre pour l'élection de l'évêque. Bien si. Et c'est d'autant plus inquiétant que quelques années plus tôt, au moment de l'élection du pape Damase, ses partisans et ceux de son principal adversaire, un certain Ursinus, en sont venus aux mains dans les rues du Transtévère. Ils se sont entremassacrés. On a ramassé des dizaines de cadavres dans les rues de Rome. Ça a été d'un effet plus que fâcheux. Et on a fait savoir, depuis Rome à Ambroise, qu'il devait à tout prix éviter qu'il se passe à Milan ce qui s'était passé à Rome. Plus facile à dire qu'à faire. Justement, on va prévenir Ambroise en cette fin d'octobre que les Milanais se sont rassemblés à la basilique Porcia. Il faut savoir que la basilique Porcia est un ancien édifice public reconverti en église, mais qui continue un peu à servir de lieu de réunion. Et tout le monde est en train de se quereller à la basilique Porcia, ça menace de tourner à l'émeute. et on dit à Ambroise, tu devrais envoyer la troupe là-bas. Mais Ambroise n'est pas du genre à envoyer la troupe pour régler ce genre de problème. Comme il aime à le dire, je connais dans l'histoire de Rome des païens qui ont réussi à gouverner sans jamais avoir à verser le sang. Pourquoi un administrateur chrétien devrait-il se conduire plus mal qu'eux ? Et il va donc se rendre lui-même à la Portia. C'est courageux, mais Ambroise est un homme courageux. Et puis, Ambroise est un remarquable orateur. Il a confiance en ses talents. Il se dit, je vais calmer ces gens. Il va arriver à la Portia, il va prendre la parole, et il va essayer de calmer les excités. Il s'y prend si bien qu'en effet, les deux groupes se calment, commencent à l'écouter. Et d'un seul coup, des rangs de la foule, on entend une petite voix, une voix d'enfant, qui crie « Ambroise évêque !» Ambroise évêque, Ambroise décide de prendre ça à la plaisanterie, il lui dit « Bon, soyons sérieux, je ne suis même pas baptisé. » « Ambroise évêque !» répète le gamin. Et à ce moment-là, le père se met à crier « Oui, après tout, c'est une bonne idée, Ambroise évêque !» Puis un autre, et puis un deuxième, et tout le monde se met à crier « Ambroise évêque !» Vu comme ça, ça ressemble à une plaisanterie. Ce n'en est pas une du tout. Et Ambroise le comprend très bien. Nous avons beau être dans un monde christianisé officiellement depuis plus de 60 ans, les vieilles mentalités païennes subsistent fortement. Nous sommes dans un monde où la plupart des gens continuent à croire aux présages, aux augures, et ce genre de mots d'enfant a une valeur symbolique extrêmement forte. Vous savez qu'on raconte toujours que lorsque Paul Émile, le grand général de la République romaine, est parti conquérir la Grèce, il était très inquiet parce qu'on lui avait dit que le roi de Macédoine, Persée, était un redoutable guerrier. Il avait dit au Sénat, c'est peut-être pas une très bonne idée de partir conquérir la Grèce. Et quand il est rentré ce soir-là chez lui, après la séance au Sénat, sa petite fille a couru avec un « papa, papa, quel malheur, Persée est morte ». Persée, c'était sa petite chienne. Et à ce moment-là, Paul Émile s'est dit, c'est un signe. Le roi de Macédoine s'appelle Perseus, la chienne s'appelait Persée, je vaincrai. Et il est parti pour la Grèce et il a conquis la Grèce. Eh bien, 300 ans après, ce genre de choses est encore très présent dans les esprits des Italiens. Et cet Ambroise évêque proféré par un petit garçon, c'est quelque chose de décisif. Tellement décisif que ce malheureux Ambroise, rentré à la préfecture, se dit « Mais qu'est-ce que je vais faire ? C'est très sérieux, je suis bel et bien élu évêque de Milan. » Sa première idée va être d'écrire à Probus en lui disant « Écoute, il m'arrive une sale histoire, je ne comprends pas très bien ce qui s'est passé, mais tu es content de moi, je suis un bon administrateur, je suis sûr que tu ne veux pas te priver de ton préfet pour en faire un évêque. » Et il envoie la lettre à Rome. Puis Ambroise, qui est un homme remarquablement intelligent, se met à réfléchir. Il se souvient de ses vœux de Probus lors de son départ. « Va, Ambroise, et agis non pas en magistrat, mais en évêque. » Il commence à se dire « Mais est-ce que tout cela ne serait pas un coup monté ? Est-ce qu'on ne m'a pas envoyé à Milan, justement, pour succéder à Auxence ?» C'est d'autant plus plausible qu'Ambroise, jusque-là, a passé pour un catholique un peu tiède. Par conséquent, quelqu'un qui ne gênerait personne, ni les lucifériens, ni les ariens, qui s'arrangerait avec tout le monde. Et Ambroise se dit, la seule solution d'échapper à ce qui commence à ressembler à un piège, Probus est assez tordu pour cela, eh bien, c'est de prouver à ces gens que je ne suis pas digne d'être évêque. Alors que va-t-il faire ? Pour la première fois de sa carrière administrative, cet après-midi-là, Ambroise siège en tant que magistrat, en tant que juge, et d'ordinaire, par principe, il ne fait jamais appliquer la torture aux prévenus comme le prévoit le droit romain. Et cet après-midi-là, Ambroise va faire mettre les prévenus à la torture. Il ne l'a jamais fait. Et il dit, vous voyez, je suis un homme cruel, je ne peux pas être évêque. Mais la foule qui est au tribunal se met à crier « Que ton péché retombe sur nous ». Ça va mal, ça va très mal. Ambroise va avoir une deuxième idée. Il se dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour les convaincre que je ne peux pas faire un évêque ? Ah, je sais. Ambroise est Milan est une ville universitaire qui comprend nombreux professeurs de philosophie, dont certains sont des païens purs et durs, néoplatoniciens, porphyristes, etc. Et Ambroise va convoquer ces éminents érudits au palais préfectoral. Il va passer la journée à discuter avec eux des théories de Plotin ou de Porphyre. C'est quasiment une profession de foi païenne. Et il s'arrange pour que tout le monde ait vu les universitaires païens entrer chez lui. C'est-à-dire, vous voyez bien, je suis païen. Que ton péché retombe sur nous, crie la foule. Alors, Ambroise va recourir aux grands moyens. Ambroise, jusque-là, était un garçon sérieux. À 35 ans, il n'est pas marié. Il y a à Milan un certain nombre de dames de petite vertu qui sont extrêmement connues parce qu'elles font tout pour ne pas passer inaperçues. Elles ont de superbes équipages, elles s'habillent élégamment, elles se maquillent outrageusement. Et il fait venir ces dames à la préfecture en s'arrangeant pour que tout le monde les voit descendre de leur litière. Il dit « Vous voyez, en plus, je suis un débauché. Que ton péché retombe sur nous. » À ce moment-là, ce malheureux Ambroise se dit « Je suis coincé, fait comme un rat. » Et la nuit suivante, il va s'habiller en homme du peuple, il va descendre à l'écurie, il va seller un cheval, il va tout simplement fuir Milan. Puis au bout de quelques kilomètres, il est pris de honte, il se dit « Qu'est-ce que je suis en train de faire ? On va se réveiller demain matin à Milan, on ne va pas trouver le préfet. La ville est déjà bien assez agitée comme ça. » Ça va être le drame, il faut que je rentre. Il rentre, première fuite manquée. Et justement, la lettre, la réponse qu'il attendait de Probus arrive. Il espérait que Probus allait lui dire « J'ai trop besoin de mon préfet pour en faire un évêque ». C'est tout le contraire. Probus lui dit « Je suis tellement content qu'il t'ait élu évêque. Tu as ma bénédiction, j'accepte ta démission ». La consternation d'Ambroise n'a plus de limite. Alors, il se dit « Non, mais cette fois, je m'en vais. La plaisanterie a suffisamment duré. » Et il repart, comme il l'a déjà fait. Et il va se cacher chez un de ses amis, un certain Leontius, en lui demandant de l'abriter le temps que tout ça se calme. Il se dit « Dans quelques jours, on a oublié cette histoire de fou, on ne va pas me retrouver, il va falloir élire quelqu'un d'autre et on n'en parlera plus. » Mais pas du tout. Les ordres de Probus sont extrêmement clairs. Ambroise doit être sacré évêque dans les meilleurs délais. Et par conséquent, son adjoint à la préfecture de Milan, qui ne veut surtout pas déplaire en haut lieu, va déclencher une véritable chasse à l'homme. On ne cherche pas le préfet d'Émilie Ligurie, ni le futur évêque de Milan, on cherche l'ennemi public numéro un. On a mis des affiches partout, il est traqué par la police et par l'armée, et Leontius, qui n'est pas particulièrement quelqu'un de courageux, se dit « ça devient grave ». Je suis en train de cacher un ennemi du peuple et de l'État. Je ferais mieux de le dénoncer. Et effectivement, ce qui est totalement contraire aux grandes traditions de l'aristocratie romaine, Leontius va dénoncer Ambroise, prévenir les autorités qu'il se cache chez lui, et on va venir arrêter Ambroise chez Leontius. On va l'emmener de force les menottes au poignet. Et à ce moment-là, il va survenir quelque chose d'extrêmement bouleversant pour Ambroise. Sur l'instant, là, il ne lui vient qu'un mot aux lèvres pour qualifier l'attitude de Leontius, c'est Judas. Et quand il pense Judas, d'un seul coup, il pense au Seigneur au jardin des Oliviers, et il est saisi d'une honte absolument épouvantable. Ambroise est le neveu d'une martyre, Aurelia Sauteris. On l'a élevé dans l'admiration de sa tante Aurelia. On l'a élevé dans l'admiration des martyrs. Il a passé son enfance sur les tombes de Sainte Agnès ou de Saint Laurent. Et il croyait toujours qu'il aimait bien le Christ, qui lui était dévoué, mais d'un peu loin. Comme il le dira un jour dans son commentaire de Saint Luc à propos de Saint Pierre, « Pierre suivait, mais il suivait d'un peu loin. » Et la honte est telle qu'il comprend à ce moment-là que ce que Dieu veut de lui, c'est qu'il accepte cette place d'évêque de Milan. Et il consent. Il renonce à ses buts personnels, il renonce à sa carrière, il renonce à tout, non, pas à sa fortune. Mais non pas parce qu'il aime l'argent, ce n'est pas du tout le problème, mais parce que l'église de Milan est tellement gangrénée par l'arianisme qu'il refuse absolument de laisser sa fortune personnelle tombé aux mains des Ariens. Sa fortune, il la distribuera, mais il la distribuera lui-même aux œuvres de l'Église. En attendant, bien voilà, nous avons un évêque de Milan qui n'est pas baptisé, qui n'est pas confirmé, qui n'est pas ordonné. Est-ce qu'on peut faire un évêque avec ça? C'est à la limite de l'illégalité totale des cinq canons. Et en l'espace d'une semaine, le pauvre saint Ambroise va être baptisé le 24 novembre, confirmé le 27, ordonné le 1er décembre et sacré évêque de Milan le 7 décembre. Vous noterez d'ailleurs que le 7 décembre, c'est la date de la fête de saint Ambroise, qui est, je crois, un cas unique dans le calendrier catholique. Et voilà Ambroise évêque. Il ne sait rien. Il a bien suivi le catéchuménat, mais enfin, ce n'est tout de même pas extraordinaire. Comme il le dira plus tard, j'ai dû enseigner ce que je n'avais pas appris. C'est évidemment une position gênante. Mais Ambroise est un homme remarquable, et pour l'enseigner, justement, puisqu'il faut bien qu'il apprenne avant d'instruire, il va faire appel à un prêtre du diocèse de Milan, probablement le plus brillant du diocèse, qui s'appelle Simplicianus. Simplicianus, avant d'entrer dans les ordres, c'était un universitaire connu, et il est surtout célèbre pour avoir amené à la fois le plus grand universitaire romain de son époque, Marius Victorinus. Et s'il y a un homme capable d'enseigner à Ambroise à une vitesse remarquable, c'est Simplicianus. Il va s'en occuper. Mais en même temps, pendant qu'Ambroise apprend la théologie et la foi catholique, eh bien, il faut qu'il assume ses fonctions d'évêque. On n'imagine plus aujourd'hui ce que c'était qu'être évêque au IVe siècle. Aujourd'hui, un évêque a un certain nombre de gens pour l'aider, mais je vous l'ai dit, ce malheureux Ambroise, il hérite d'un clergé aux trois quarts hérétique et pour l'autre quart transformé en extrémiste du bord opposé. Sur qui voulez-vous qu'il s'appuie? Alors, il va falloir qu'il fasse tout seul. Il faut qu'il dise sa messe tous les jours. Il faut qu'il prêche, car c'est le rôle de l'évêque de prêcher à sa messe quotidienne. Comment voulez-vous prêcher que vous ignorez les fondements même de la théologie? Il faut qu'il assume la charge des catéchumènes. Il a également le rôle de pénitencier, de juge canonique. Il a entièrement la charge financière et matérielle des œuvres caritatives du diocèse. Et comme nous sommes dans une époque troublée, avec des invasions barbares qui se succèdent aux frontières de l'Italie et qui font un nombre considérable de réfugiés et de prisonniers, il faut pouvoir pourvoir aux besoins des gens qui n'ont plus rien et qui ont fui vers Milan, mais également pouvoir trouver les fonds nécessaires pour racheter les gens qui ont été emmenés en esclavage par les barbares. Être évêque, ce n'est vraiment pas une sinécure. Alors Ambroise va avoir une idée, il va appeler à l'aide la seule personne en qui il a entièrement confiance, son frère Satyrus, qui est toujours à Sirmium. Il va lui dire « J'ai besoin d'un administrateur laïque, viens m'aider s'il te plaît. » Et Satyrus va effectivement partir pour Milan. Milan, pendant ce temps-là, il se passe des choses. Lorsque Probus et l'empereur Valentinien ont poussé Ambroise vers le trône épiscopal, ils se disaient « Oh, c'est un diplomate, il ne fera pas de vagues, il n'y aura pas de crise avec lui. » Ils se sont complètement trompés. Ambroise, préfet d'Émilie Ligurie, pouvait être diplomate. Ambroise, évêque de Milan, ne le sera pas. Comme il le dira un jour, désormais, adieu ma préférence. Les lois de Dieu passeront toujours avant celles des hommes dans l'esprit d'Ambroise. Et il ne sera pas un prélat commode. Aux grandes dames des Ariens, sa première décision, et elle est tout à fait symbolique, sera de rapatrier à Milan le corps de son prédécesseur, l'évêque Denis, le martyr Denis, victime de l'arianisme. Vous imaginez bien que la translation des reliques de Saint-Denis de Milan, victime de l'évêque Auxence, va plonger le clergé arien dans une sorte de fureur sacrée, qu'à partir de ce moment-là, ils n'auront plus qu'une envie, c'est de se débarrasser d'Ambroise. Ambroise laisse dire. Il est en tout point d'accord avec le pape Damase, le pape Damase qui a pour principe face à l'arianisme de dire qu'il ne faut pas employer la coercition. Les Ariens vieillissent. Les Ariens vont disparaître d'eux-mêmes, fatalement un jour ou l'autre. Inutile de provoquer une crise, ce qu'il faut, c'est préparer un futur clergé qui, lui, soit catholique. Par conséquent, un jour ou l'autre, il y aura des prêtres vraiment catholiques dans toutes les paroisses d'Italie et d'Europe. Inutile d'aller lyncher les Ariens en attendant. Mais voilà que va survenir un événement totalement inattendu. L'empereur Valentinien, en 375, se querelle avec un de ses proches. La colère de Valentinien est tellement forte qu'il va en mourir. Il va tomber raide, rouge de colère, belle attaque cérébrale. Et l'Empire va échoir à son fils aîné, le jeune Gratien. Gratien a 16 ans. C'est un gentil garçon, c'est vraiment un très gentil garçon. Mais il est fait pour être empereur comme moi pour être pape. Gratien est totalement incapable d'assumer ce genre de fonction. Ce n'est pas un intellectuel. Il est à la limite de l'imbécile. Sa grande passion, c'est la chasse. Il sait à peine lire. Mais c'est le bon côté de Gratien. D'abord, il est très pieux. Et puis ensuite, il est bien conscient qu'il est idiot. Et avec un incroyable bon sens, il va aller trouver Ambroise, il va lui dire « Je sais, je suis idiot, je sais, je suis ignorant, je sais, je suis incapable. Est-ce que tu pourrais m'aider ?» Et Ambroise, bien entendu, va accepter de servir de conseiller et même de tuteur à Gratien. Mais on va voir dès le début les limites du pouvoir d'Ambroise. C'est que nous avons oublié Justine, la veuve de Valentinien. Justine n'aime pas Ambroise. Elle est arienne. Puis Justine, elle a un fils, elle aussi, Valentinien, Valentinien II, qui n'a que 4 ans. Et normalement, elle n'a aucun droit à imposer comme co-empereur un petit garçon de 4 ans. Mais elle a toutes les audaces, et elle va réussir à convaincre le Sénat de faire déclarer Valentinien co-empereur de Gratien. Ambroise dit à Gratien, « Écoute, tu ne devrais pas accepter, ton demi-frère a 4 ans, ça ne peut que mal tourner. » Mais Gratien aime éperdument son petit frère. Il dit, mais ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas du tout de partager avec Valentinien. De toute façon, partager avec un enfant de 4 ans, ce ne serait pas grave. Mais partager avec Justine, c'est une autre affaire. Ce qu'Ambroise essaye de lui faire comprendre, mais totalement en vain. Mais il va bien falloir s'en accommoder. En fait, le véritable pouvoir est une fois de plus entre les mains de Justine. Mais voilà qu'un autre événement va bouleverser la vie d'Ambroise. Avec toutes ces histoires qui lui sont arrivées ces dernières années, il a un peu laissé de côté ses propres problèmes personnels et d'abord l'administration de ses terres. Or, il se trouve qu'on lui apprend qu'en Afrique, un voisin peu scrupuleux tout simplement fait main basse sur certains de ses domaines. Bien entendu, il n'a pas la possibilité d'y aller lui-même. Alors, Cétirus lui dit « je vais aller m'en charger ». T'inquiète pas, je m'en occupe. Il lui dit, écoute, on a des hommes d'affaires, on a des avocats, qu'est-ce que tu as besoin d'aller en Afrique? J'ai besoin de toi à Milan. Mais Satyrus, c'est une tête de mule, et il part quand même. Il s'embarque, et il fait naufrage. Ce qui est extrêmement fréquent à l'époque, on n'imagine pas le nombre d'épaves qu'il y a au fond de la Méditerranée, parce qu'il passe son temps à faire naufrage. Et à bord, il y a des pèlerins qui voyagent avec le Saint-Sacrement. Là, ça nous paraît bizarre, mais à l'époque, c'est relativement fréquent. Et à ce moment-là, alors que tout le monde est en train de se noyer, le pauvre Satyrus se dit « Mais c'est affreux, je ne suis pas baptisé. » Il est bien temps d'y penser, il a quand même 40 ans. Et il a une idée tout à fait étonnante. C'est un sportif, Satyrus. Il se dit « On n'est pas très loin de la Sardaigne, on est quoi, peut-être à 2 km de la côte. Je suis un très bon nageur, je devrais y arriver. » Mais pas tout seul. Il va chercher le Saint-Sacrement et il nage avec le Saint-Sacrement jusqu'à la côte. Et il arrive là-bas et il se dit, « Maintenant, il faut que je me fasse baptiser. » Ah oui, mais on est en Sardaigne. Et la Sardaigne, c'est l'évêché de Lucifer de Cagliari. C'est quand même difficile pour le frère d'Ambroise de Milan d'aller demander le baptême à Lucifer. On s'appelle comme on peut. Il ira donc demander le baptême en Afrique, parce qu'il va repartir là-bas. Il aurait quand même pu rentrer à Milan, demander le baptême à son frère, ça aurait été plus simple. Mais non, c'est une tête de mule. Ça va, l'escapade de Satyrus va durer 2 ans. Et quand il va enfin rentrer en Italie, qu'il va débarquer à Rome, c'est pour apprendre que les barbares, une fois de plus, ont fait sauter le verrou de l'Italie. C'est Achille, le verrou de l'Italie, il passe son temps à sauter, c'est le verrou le moins sûr qu'on connaisse. Et donc, les barbares ont pris Achille, ils marchent sur Milan, et il est saisi d'angoisse à la pensée de son frère, seul dans une ville assiégée. Il va prendre un cheval, il va galoper, en plein hiver, de Rome à Milan. Et en chemin, il va attraper un mauvais coup de froid, et il va arriver à Milan pour mourir de pneumonie dans les bras de son frère. Pour Ambroise, c'est un coup abominable. On a le panégyrique funèbre de Satyrus écrit par son frère. C'est un texte bouleversant et si vous avez l'occasion d'aller lire en saint Ambroise, d'abord parce que ça mérite d'être lu, c'est un très beau latin d'ailleurs relativement facile à lire dans le texte, bien vous comparerez ce panégyrique de Satyrus aux consolations dont je vous parlerai ce soir que saint Jérôme adressera à son ami saint Paul à la mort de sa fille aînée. Saint Jérôme dira à la malheureuse Paola « Tu devras avoir honte, toi une chrétienne, de pleurer ta fille. » Saint Ambroise, lui, sanglote sur la tombe de son frère. Il dit « C'est normal que je pleure sur la tombe de mon frère, mais comme à la différence des païens, je crois à l'immortalité de l'âme et à la résurrection, il faudra bien que mes larmes aient un terme. » Cette mort de Satyrus pour Ambroise, c'est à nouveau une de ces épreuves purificatrices. On va voir à quel point Ambroise s'élève dès son séjour à Rome l'été suivant. Il est allé régler des affaires de famille et assurer l'avenir de sa sœur Marcellina, qui a fondé une communauté de religieuses à Rome dans la maison familiale. Et donc, il va dire à Marcellina, qui lui laisse l'essentiel de la fortune, et à ce moment-là, eh bien, une voisine qui est passée chez Marcellina, qui est une femme atteinte de paralysie généralisée, qu'on a amenée sur une civière, passe à côté d'Ambroise. L'ombre d'Ambroise l'effleure, et elle se lève, elle est guérie. Elle est guérie, mais Ambroise est absolument consterné. Comme tous les vrais thaumaturges, il ne comprend pas ce qui lui arrive, il est très gêné. Et Ambroise va passer le reste de sa vie à faire des miracles, de plus en plus éblouissants d'ailleurs, mais il en sera toujours extrêmement ennuyé. C'est un exorciste aussi, on va commencer à lui amener un certain nombre de possédés. Probus d'ailleurs va lui amener son propre secrétaire, la délicieuse ambiance qui devait régner dans les bureaux de Probus, puisque son propre secrétaire était totalement possédé. Et très curieusement, chaque fois que le secrétaire allait chez Ambroise, il se sentait beaucoup mieux. Chaque fois qu'il retournait chez Probus, ça le reprenait. Et voilà Ambroise, quand on commence à dire que c'est un saint. Comme tous les saints, il n'aime pas qu'on dise qu'il est un saint. Et pendant ce séjour à Rome, sa sœur Marcellina va lui dire « Écoute, je sais que tu écris bien, mais tu n'écris pas beaucoup. Et je voudrais que tu me rédiges un petit traité à l'intention de mes religieuses. » Ce sera le De Virginibus, qui est un très joli texte d'une part, d'admirable passage notamment sur Sainte Agnès, un très beau passage également sur Sainte Pélagie. C'est très remarquable parce que, comme vous le savez, la pauvre Sainte Pélagie s'est suicidée pour échapper aux persécuteurs et sauver sa vertu. Et ce qui est très intéressant dans le De Virginibus de saint Ambroise, c'est que c'est un texte féministe. C'est un texte féministe parce que Ambroise y prêche le droit pour une jeune fille de choisir autre chose que le mariage. Dans la société romaine antique, ne pas se marier est un choix absolument invraisemblable. D'ailleurs, aucun père de famille ne consentirait à laisser sa fille disposer de son existence. Et même dans une Rome christianisée, la plupart des pères de famille prennent très très mal l'idée d'avoir une fille religieuse. Et ce sera un des grands combats d'Ambroise de convaincre ces gens de laisser leur fille libre de leur choix. C'est en quoi il est un grand défenseur des droits des femmes. Il écrit aussi un autre traité qui, alors là, est nettement anti-arien, c'est le De Paradiso. Et on commence de plus en plus à le redouter dans les milieux ariens. Cette même année 377, l'évêque de Sirmium, l'évêque arien de Sirmium, qu'il a bien connu quand il était magistrat là-bas, meurt. Je vous disais tout à l'heure, ils sont vieux, les ariens. Ils ont de plus en plus tendance à céder la place. Nous allons avoir à Sirmium le même problème que nous avons eu à Milan. C'est qu'il faut absolument mettre un évêque catholique à la place de l'évêque de Sirmium. Ambroise va s'y rendre en personne. Et on va assister à une émeute, une fois de plus. Il va même être violemment pris à partie physiquement par une jeune fille qui n'est autre qu'une religieuse, une religieuse arienne. Et Ambroise lui dit, il est malheureux qu'une consacrée, même hérétique, ose lever la main sur un évêque. Tu devrais te repentir. Et le lendemain, on apprend que la religieuse est morte dans la nuit. Et c'est un tel choc qu'on élit, sans faire le moindre commentaire, un évêque catholique à Sirmium qui revient d'un seul coup à la foi. Et puis Ambroise rentre à Milan, et là, Gratien dont je vous ai dit qu'il n'est pas absolument un génie, Gratien lui dit, tu sais, je suis un peu ennuyé parce que Justine passe mon temps à m'assommer avec ses propos à rien, je ne sais pas quoi lui répondre. Et Ambroise lui dit, qu'à cela ne tienne, je vais t'écrire un traité. Et il lui écrit le De Fide et Gratianum, qui est un traité sur la théologie trinitaire. De vous à moi, je suis persuadé que si le pauvre Gratien a essayé de lire ça, ça lui est passé très largement au-dessus de la tête. Mais c'est un admirable texte anti-arien d'une profonde beauté qui mérite réellement d'être lu. Et Gratien en a suffisamment compris les retombées pour que l'année suivante, il ose, à la fureur de sa belle-mère, faire interdire les offices ariens à Milan. Non seulement il fait interdire les offices ariens à Milan, mais il confisque aux ariens les églises dont il s'était emparé 50 ans plus tôt, qui vont être restituées au clergé catholique. Ambroise est ravi, il jubile, Justine beaucoup moins, évidemment. Puis, sur une si bonne voie, Damas et Ambroise vont convoquer deux conciles à Aquilée et à Rome pour condamner, une fois encore, les idées ariennes et particulièrement ce qu'on a appelé le credo de Rimini. Alors qu'est-ce que le credo de Rimini? Vous le savez peut-être. Vous savez que en 353, le pape Libère a été enlevé de Rome à la demande de l'empereur Constance, cet arien pur et dur, qui a passé un certain nombre d'années en résidence surveillée, dans des conditions assez peu agréables, et qu'au bout du compte, pour pouvoir rentrer à Rome, ce malheureux Libère a accepté de supprimer le credo de Nicée, comme si le pape avait le pouvoir de supprimer le credo. Et il a remplacé le credo de Nicée par ce qu'on appelait le credo de Rimini, qui était ni plus ni moins qu'une formule arienne. Alors bien entendu, comme le dira saint Jérôme, un jour, l'univers gémissant s'est réveillé à rien. Bien entendu, la plupart des gens n'ont jamais adhéré au credo de Rimini, mais il n'empêche qu'il n'a jamais été aboli. Et c'est tout l'intérêt des conciles d'Aquilée et de Rome de déclarer une fois pour toutes que le credo de Rimini est une absurdité totale, qu'il n'a pas droit de citer dans l'Église et qu'il faut impérativement partout en revenir au credo de Nicée. C'est dans le même état d'esprit que l'année suivante, en 381, Ambroise va écrire un autre traité, le De Spiritu Sancto. Puis, en 382, il va commencer à pourfendre un autre hérétique, qui est Apollinarius. Apollinarius enseigne alors à Antioche, il a une théologie un peu bizarre, puisqu'il enseigne que le Christ, l'âme du Christ n'était pas une âme mi-divine, mi-humaine, qu'elle était uniquement, c'était une âme purement divine et pas humaine, voilà. Et Apollinarius ne possédait, bien entendu, est hérétique. Et Ambroise va écrire le De Incarnationis contre lui. Ça fera d'ailleurs de lui l'ennemi intime de saint Jérôme sans qu'il le sache, car Jérôme a été l'étudiant d'Apollinarius. Il l'aime beaucoup. Mais la gloire d'Ambroise est en train de monter. Tel point que Gratien et de plus en plus sous son influence. Et Gratien, c'est très curieux, Gratien, qui est chrétien, lui, il est baptisé, à la différence de tant, d'autres. Gratien lui dit, tu sais, il y a quelque chose qui m'ennuie un peu, c'est que je porte toujours le titre de Pontifex Maximus. Oui, l'empereur est Pontifex Maximus. Mais qu'est-ce que le Pontifex Maximus ? Ben, c'est le grand prêtre de Jupiter. Rien de plus, rien de moins. Et il est vrai que pour un empereur chrétien, c'est très curieux de porter un même titre. En même temps, le titre de grand prêtre de Jupiter, Ambroise lui dit, tu as raison, Gratien. Tu ne peux pas être un empereur chrétien et le pontife suprême des idoles. Et Gratien va renoncer à ce titre. Et il va faire mieux ou pire, ça dépend de quel côté on se place. Jusque-là, l'État continuait à subventionner les cultes païens. Un empereur catholique donnait de l'argent aux païens pour leur permettre de continuer à entretenir leur temple et d'adorer les idoles. Ambroise lui dit, tu n'es pas logique. Il faut supprimer les subventions aux païens, car sans ça, tu les aides à se damner. Gratien lui dit, tu as raison. Il supprime les subventions. Et sur la lancée, Ambroise lui dit, encore quelque chose qui me chiffonne, tu vois. Le Sénat continue de délibérer à Rome devant l'autel de la Victoire. L'autel de la Victoire a été placé là par l'empereur Auguste, 400 ans plus tôt. Alors le Sénat de Rome n'a plus une importance bien importante, bien grande. Il a beaucoup baissé. Mais l'autel de la Victoire reste un symbole national, quelque chose d'une importance extraordinaire. Mais il est bel et bien surmonté par une statue de divinité païenne. Et Ambroise dit à Gratien, tu te rends compte que des sénateurs, qui pour la majorité d'entre eux sont catholiques, sont obligés tous les jours de venir délibérer devant cette idole et qu'ils continuent à prêter serment sur l'autel de la Victoire. C'est scandaleux. Enlève l'autel de la Victoire. Et Gratien va faire enlever l'autel de la Victoire. Et il y a quelqu'un qui ne va pas être content du tout, c'est le fameux cousin d'Ambroise. Souvenez, le cousin Aurelius Symmachus, à qui il a été élevé. Symmach, c'est la branche païenne de la famille. Et il va trouver Gratien en disant, c'est scandaleux, comment as-tu osé faire ça ? L'autel de la Victoire, c'est le symbole de Rome. Est-ce que tu n'es pas patriote ? Est-ce que tu n'aimes pas ton pays que tu fasses ça ? On est en février 383, Symmach est très convaincant, c'est un remarquable orateur. Il faut lire les discours de Symmach parce que c'est vraiment un homme qui s'exprime admirablement bien, et puis c'est un homme de conviction. Ce n'est pas pour rien qu'on veut le cousin d'Ambroise. Mais Ambroise va dire à Gratien, « J'aime beaucoup mon cousin, mais tu ne céderas pas. » Il va renvoyer Symmach à Rome sans qu'il ait rien obtenu. Et à ce moment-là va survenir un événement capital en Bretagne, je parle de la Grande-Bretagne évidemment. Les légions vont se soulever, malheureusement c'est très habituel, les légions passent leur temps à se mutiner, c'est le propre des légions romaines, quand elles ne savent pas quoi faire, elles se mutinent. Et elles vont porter à la pourpre un usurpateur de plus, l'histoire romaine est une longue théorie d'usurpateur. Celui-là s'appelle Maxime, Maximus Magnus Clemens. Et vous savez, l'ennui pour un général romain, c'est qu'en un seul coup, vos légions se mutinent et font de vous un empereur, ben, vous n'avez plus qu'à suivre, parce que de toute façon, l'empereur légitime ne va pas aimer ça, il va vous faire supprimer. Alors quitte à se faire couper la tête, autant que ce soit pour quelque chose. Donc Maxime va prendre la tête de ses légions révoltées, il va franchir la Manche, il va débarquer en Gaule, et eh bien, il va envisager de combattre Gratien. Et Gratien part pour la Gaule, pour arrêter l'usurpateur. Il va livrer combat, on est à l'été 383, il va livrer combat devant Paris. Il va perdre cette bataille. Il va réussir à fuir, il va réussir à fuir jusqu'à Lyon, où il va être assassiné. Ce pauvre Gratien, misérablement assassiné à 19 ans, comme dira Ambroise, bouleversé, et personne n'était à ses côtés, ce qui est vrai. Mais en attendant, en Occident, le pouvoir vient de tomber entre les mains de Maxime, et à Rome, on commence à rire. Gratien avait renoncé à être Pontifex Maximus, on l'avait prévenu que ça lui porterait malheur, et voilà, il est mort et s'en vient à Rome, le pontife Maxime. Et à ce moment-là, quelqu'un est très inquiet, c'est Justine. Elle se dit, Gratien a été assassiné, qui prouve que demain ce ne sera pas mon fils qu'elle a fait proclamer empereur, que ce ne soit pas le petit Valentinien II qui connaisse le même sort. Valentinien II, il a 10 ans. Et sa mère a tellement peur pour lui qu'elle va tenter une démarche totalement inattendue. Elle va aller trouver Ambroise, son ennemi intime. Elle va lui dire, s'il te plaît, va trouver Maxime et empêche-le de passer en Italie. Elle n'aime pas Ambroise, mais elle lui attribue des pouvoirs étonnants. Et Ambroise, qui n'est pas rancunier, dit en souvenir de Gratien qui aimait tellement son frère, je ferai ce que tu me demandes. J'irai trouver Maxime à Trèves et je lui demanderai de ne pas envahir l'Italie. Et Ambroise part pour Trèves. Il va rencontrer Maxime, qui lui dit, mais je n'ai que de bonnes intentions, tu sais, je suis un bon chrétien, un bon catholique. Je veux prendre le petit Valentinien sous ma tutelle et ma protection. Et d'ailleurs, pour preuve de ma bonne volonté, tu vas rentrer à Milan, tu vas me renvoyer Justine et ses enfants. Et Ambroise, qui n'est pas tombé de la dernière pluie, le regarde et lui dit, mais voyons, soyons sérieux, nous sommes au mois de novembre, il commence à neiger, les cols des Alpes sont impraticables, tu voudrais que je fasse voyager une femme et deux enfants en bas âge, puis tu es malade. S'il leur arrivait un accident en route, on dirait que tu les as assassinés. Attends le printemps. Et Maxime ne voit pas le piège, il lui dit, bon, très bien, je te fais confiance, tu m'enverras Justine, son fils et sa fille au printemps prochain. Oui, dit Ambroise, qui pense par lui qu'au printemps prochain, on aura suffisamment trouvé de légions pour protéger l'Italie contre Maxime. Mais pendant ce temps-là, Justine, qui n'a pas la reconnaissance comme vertu principale, Justine a trouvé le moyen de jouer un nouveau tour à Ambroise en son absence. Elle a fait venir de Rome à Milan Symmaque, qui vient d'être nommé préfet du prétoire de Rome, et elle lui dit, tu te souviens, Gratien avait fait retirer l'autel de la Victoire et supprimé les subventions au culte païen. Je suis sûre que Valentinien serait plus compréhensif que son frère. Tu devrais lui représenter tes demandes, replaider ta cause devant lui et je l'appuierai, mon fils m'obéit. Symmaque arrive, malheureusement pour lui, Ambroise rentre au même moment. Et Symmaque va prononcer une plaidoirie, mais admirable. Comme le dira Ambroise lui-même, on ne pouvait pas l'entendre sans avoir les larmes aux yeux. C'était un texte d'une telle beauté, d'une telle hauteur, d'un tel patriotisme qu'on ne pouvait qu'y adhérer. Sauf que Symmaque est païen, que je n'ai pas l'intention d'adhérer aux thèses de mon cousin, si doué soit-il. Et il va aller trouver le petit Valentinien et lui dire, toi qui aimais tellement ton grand frère, maintenant qu'il est mort, tu vas détruire ce qu'il a fait de mieux. Il n'en est pas question, Valentinien. Valentinien lui dit, mais tu sais, je suis un petit garçon, je suis tout petit, j'ai 10 ans, qu'est-ce que tu veux que je dise à maman? Et Ambroise le regarde et lui dit, l'histoire de l'Église est pleine d'enfants plus jeunes que toi qui ont souffert le martyre pour ne pas tolérer les cultes païens. Le pauvre Valentinien va rentrer, il va dire à sa mère, Ambroise a dit que tu ne devais pas écouter ce que dit Symmaque. Moi, je ne veux pas que tu remettes l'autel de la Victoire au Sénat à Rome. Vous imaginez la joie de Justine. Elle se dit, il me le paiera. Et ça ne tardera pas. Justement, en ces années 385, il vient d'arriver à Milan un personnage qui va avoir une importance déterminante dans l'histoire de l'Église. C'est un certain Augustin. Augustin, c'est un jeune rhéteur qui avait de grandes ambitions égales à son immense talent, né dans une famille chrétienne, non baptisée bien entendu, et qui vers l'âge de 20 ans s'est fourvoyé dans le manichéisme, où il n'a pas trouvé les satisfactions morales, intellectuelles et spirituelles qu'il espérait y trouver. Comme Augustin le dira un jour, mon âme était troublée car mon cœur ne pouvait reposer en paix tant qu'il ne reposait pas en toi, Seigneur. Mais pour le moment, il ne le sait pas. Et quand il est arrivé à Rome, il espérait trouver un poste de professeur. Ça ne s'est pas bien passé. Et en désespoir de cause, il s'est dit si j'essayais la fonction publique. Mais la fonction publique, ce sont des concours. Ce qu'il voudrait, c'est un poste de recteur à l'université de Milan. Mais pour ça, il faut des appuis. Et qui va-t-il aller chercher comme appui ? Il va aller chercher Symmaque. Symmaque va arriver, ce jeune manichéen, garçon remarquablement doué, remarquablement brillant, ça saute aux yeux, et ennemi déclaré du catholicisme. Il se dit, tiens, je vais faire un cadeau au cousin Ambroise. Il dit, mais mon garçon, je serais ravi que tu deviennes recteur à l'université de Milan. C'est un poste d'avenir, c'est toi qui prononces les panégyriques des empereurs au moment de leur anniversaire et le reste. Je te donne ma bénédiction. Pars pour Milan et va saluer de ma part mon cousin Ambroise. Symmaque ne se doute pas qu'il vient de faire cadeau à l'Église catholique d'un de ses plus grands saints. Augustin arrive à Milan, flanqué de sa mère, sainte Monique, qui ne le lâche pas. Et Monique lui dit, je sais bien, c'est le désespoir de sa vie, je sais bien que tu ne vas pas revenir à la foi de ton enfance, mais si tu as le sens de ta carrière, Augustin a le sens de sa carrière, mais moins que sa mère. Si tu as le sens de ta carrière, sois quand même poli avec l'évêque, c'est quelqu'un de très gentil, va voir l'évêque, parle-lui. Augustin se dit, après tout, oui, l'évêque c'est un personnage, même si je ne partage pas ses opinions, je pourrais peut-être en effet aller lui présenter mes hommages. Ce qu'il fait. Et il voit bien qu'Ambroise est quelqu'un de très, très, très occupé. Mais cet homme tellement occupé va réussir à lui accorder un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, s'intéresser à lui parler. Et en fait, ce qui a toujours manqué à Augustin toute son adolescence et sa jeunesse, c'est qu'un homme s'occupe de lui. Son père, son brave homme de père, Patricius, n'a jamais compris qu'il était le père d'un génie, ça l'a toujours dépassé. Il n'était pas à la hauteur. Ambroise, Augustin en a beaucoup souffert. Et ce père, il va le trouver en Ambroise. Et il est de plus en plus conquis. D'autant plus que sa mère passe son temps à lui dire « Ambroise, c'est quand même quelqu'un ». Et pourtant, les rapports de Monique et d'Ambroise ne sont pas tellement faciles. Monique a l'habitude d'hériter des chrétientés africaines, d'aller célébrer les anniversaires des défunts ou des martyrs en pique-niquant sur les tombes. Je vous signale, ça se pratique encore dans certaines églises russes. Nous, ça nous paraît bizarre, mais les orthodoxes le font encore. Donc Monique va faire ça. Au fête des martyrs, on va pique-niquer sur les tombes, c'est sympathique, c'est drôle. Puis on prie, on boit, on mange. Et Ambroise lui dit, tu sais, ça se pratique peut-être en Afrique, mais chez nous, en principe, ça ne se fait pas. Et Monique est un peu étonnée, elle lui dit, tu es sûr ? Ah oui, lui dit Ambroise, je suis sûr, tu ne devrais pas faire ça. Et Monique obéit. Quand on connaît le caractère de sainte Monique, il faut quand même qu'Ambroise ait une certaine poigne. Et elle dit à son fils, tu vois, c'est quand même un homme de bon conseil. Ah oui, lui dit Augustin, je n'en doute pas. Et nous sommes un peu pendant carême 385. Et Justine, je vous disais tout à l'heure, la gratitude n'est pas sa qualité dominante. Elle a déjà oublié ce qu'Ambroise avait fait pour elle l'année précédente. Elle lui dit, tu sais, tu avais obligé Gratien à confisquer les églises ariennes. Mais mon fils exige que tu nous les rendes. Ah, lui dit Ambroise, qu'est-ce que je te rende ? Viens à la Portia pour commencer. Et puis peut-être ensuite la Basilique Neuve. La Basilique Neuve, c'est la plus grande église de Milan. C'est en quelque sorte la cathédrale. Ambroise dit, tu veux, je te rende la Portia et la Basilique Neuve ? Ben, tu rêves. Ce n'est pas à l'évêque de rendre la maison du Seigneur à l'hérétique. Justine dit, bien qu'à cela ne tienne, tu ne veux pas me les rendre, on te les prendra de force. Et elle arrache au pauvre petit Valentinien un édit, confisquant la Portia et la Basilique Neuve, et ajoutant que si le clergé et les fidèles catholiques s'avisaient de résister à cette confiscation, eh bien, ils pourraient être punis de mort. Ambroise, en prenant connaissance du décret, dit simplement, eh bien, qu'elle y vienne. Et il va s'enfermer dans la basilique Portia, dont on va barricader les portes, avec la majorité des fidèles. Alors, vous imaginez bien qu'au bout de quelques heures, enfermé dans une basilique, ça devient un peu ennuyeux. Et Ambroise a beaucoup fait prier les gens, mais quand même, 24 heures, 36 heures, 48 heures, il faut occuper le bon peuple. Et il va avoir l'idée de le faire chanter, dans le bon sens du terme, faire chanter des hymnes, évidemment. Et ça ne se pratique pas. Il faut savoir que dans l'Église occidentale, le chant liturgique n'existe pas à l'époque. C'est vrai que dans l'Église orientale, dans la primitive Église, on chantait les psaumes, mais ça s'est peu à peu perdu. Et l'Église occidentale ne chante pas. Et voilà qu'Ambroise introduit le chant dans la liturgie, ce qui existe encore dans le rite ambrosien. Et donc tout le monde chante, tout le monde reprend les improvisations de l'évêque. Ça s'entend de l'extérieur, des gens qui braillent en grand nombre. Et les soldats qui assiègent la Portia se disent « qu'est-ce qui se passe ? C'est pas normal ?» Au bout d'un moment, ils se disent « ils nous jettent des malédictions ». Et on est le dimanche des rameaux et les soldats sont de plus en plus inquiets. Ils vont au palais impérial dire à Justine, tu sais, ils sont en train de nous ensorceler. Justine, arrêtez de dire des imbécilités, vous n'avez qu'à les faire sortir de force. On n'en a pas très envie. Et pour ne rien arranger, Ambroise écrit à Justine, plus exactement à Valentinien. Il a beaucoup plus d'influence sur un petit garçon de 12 ans que sur sa mère, ça va de soi. Et il écrit à Valentinien, je suis navré de te dire, tu as beau me menacer de mort, je te préviens qu'un laïc, fût-il empereur, n'a pas le droit de juger un évêque, mais qu'un évêque a toujours le droit de juger un laïc, fût-il empereur. Pris de panique, le petit Valentinien va dire à sa mère, tu laisses les basiliques à Ambroise. Et le vendredi saint, 385, le siège des basiliques est levé. Ambroise vient d'emporter une victoire absolument extraordinaire, tellement extraordinaire qu'Augustin se dit « Si je revenais à la foi de mon enfance, si je demandais le baptême, ce ne sera fait que l'année suivante, mais c'est à ce moment-là que se joue le destin de saint Augustin. » Comme si cela ne suffisait pas à assurer la popularité d'Ambroise, je vous ai dit qu'il était thaumaturge, il a aussi des visions. Et un jour, en se promenant dans un des cimetières de Milan, il dit « Tiens, je sens qu'il y a une tombe de martyr ici. » Il fait creuser, on va retrouver les tombes des martyrs Protée et Gervais, que l'on va ramener à la basilique Neuve dans un grand concours de peuple. Et une fois de plus, les Ariens vont être totalement déconfits. Pour le moment, la situation a l'air calme, tellement calme qu'Ambroise va avoir le temps d'écrire. Il va écrire quelques-uns de ses plus beaux textes, le De Officiis, un titre qu'il a emprunté à Cicéron, le traité des devoirs, qui est en fait un texte écrit pour son clergé, pour lui rappeler quels sont les devoirs du clergé. Suis ce que je tiens peut-être personnellement pour son plus beau texte d'exégèse et de théologie, c'est l'Exposition Evangelii Secundum Lucam, où on trouve réellement des pages magnifiques. Ce commentaire de saint Luc est splendide, saint Jérôme en dira pique-pendre, mais c'était totalement immérité. Et puis, il y a encore un très beau texte qu'il publie l'année suivante, qui est le De Penitentia, qui est une réfutation de l'hérésie de Novencianiste. Alors, vous savez que Novencien remonte aux années 250, après la grande persécution de Dèce, persécution qui a fait fort peu de martyrs, mais énormément d'apostats. Alors bien pourquoi on n'a jamais pardonné à Dèce, s'il a perdu les âmes plutôt que les corps. Et Novatien avait décrété que les apostats ne pouvaient pas être réconciliés, qu'ils étaient damnés. L'Église avait pris le parti contraire, mais malheureusement l'idéologie novatianiste a continué à pénétrer certaines couches de l'Église, où on continue à considérer que la pénitence est impossible, qu'un pécheur grave est damné. Il y a des pages absolument magnifiques dans le De Penitentia, notamment à propos de ce genre d'ultra qui refuse la pénitence des pécheurs. Et Ambroise écrit « Et quand vous refusez l'absolution à ces malheureux, vous vous écriez « Moi, je suis pur, vous êtes pur, mes beaux petits seigneurs. Notre Seigneur qu'il était, lui, n'a pas dit à Madeleine « Ne me touche pas car je suis pur ». C'est vraiment un texte admirable, De Penitentia. Et nous sommes en 387, et Justine a oublié l'existence de Maxime de l'autre côté des Alpes. Maxime a attendu pendant 2 ans qu'Ambroise lui expédie Justine, Valentinien et sa petite sœur. Il a attendu, attendu, rien n'est jamais venu. Je dis, puisqu'on ne les envoie pas, je vais venir les chercher. Saint-Martin lui avait bien dit, si tu passes les Alpes, il t'arrivera malheur. Mais Maxime ne se l'est pas laissé impressionner. Et effectivement, au printemps 387, il va passer les Alpes et marcher sur l'Italie. Avec des troupes tellement fortes que Justine, saisie de panique, va quitter Milan et fuir vers la Grèce en emmenant ses enfants. La situation pour elle paraît totalement désespérée, d'autant qu'elle va rencontrer à Thessalonique l'empereur d'Orient, Théodose. Alors Théodose, il a été nommé empereur d'Orient par Gratien 5 ans plus tôt. Ça n'a jamais très bien fonctionné entre eux. Ce n'était pas la faute de Gratien. Théodose est un homme remarquable, un officier extrêmement brillant, qui était lui-même le fils d'un général espagnol, qui avait été exécuté sous ordre de Valentinien. Évidemment, c'est toujours un peu gênant de partager le pouvoir avec le fils d'un homme qui a fait assassiner votre père. Donc Valentinien, Théodose et Gratien ne s'entendaient pas bien. Et Théodose n'a pas versé une larme après l'assassinat du malheureux Gratien. Et évidemment, en voyant arriver Justine et le petit Valentinien, il n'est pas très bien disposé envers eux. Mais Justine a une arme secrète. Justine a une fille qui s'appelle Galla. Galla a 17 ans. Justine était très belle. Sa fille est 1000 fois plus belle qu'elle. Et quand Théodose va voir Galla, il va tomber éperdument amoureux d'elle. Et il va dire à Justine, « Que veux-tu en échange de la main de ta fille ?» Elle va lui dire, « Oh, presque rien, que tu me débarrasses de Maxime. » Et le coup de foudre est tel que Théodose va repartir pour l'Europe. Oui, il va effectivement vaincre Maxime et le faire exécuter. Et en 388, il va entrer en triomphateur à Milan. Tout le monde, à partir de ce moment-là, comprend que le pouvoir est entre ses mains, parce que ce n'est pas le petit Valentinien II à 14 ans qui va s'opposer à cet homme fait, extrêmement brillant, extrêmement doué. Et immédiatement, il va y avoir des étincelles entre Ambroise et Théodose. Il va y avoir des étincelles parce que ça fait déjà un certain temps que Théodose règne à Constantinople, et à Constantinople, le clergé tolère que pendant les offices, l'empereur s'asseye dans le chœur à la place de l'évêque. Et quand il va entrer pour la première fois à Milan, à la basilique, à la Nova, bien Théodose va aller tout normalement, il va traverser le chœur, il va aller s'asseoir à la place de l'évêque. Ambroise va dire, c'est pas ta place. Théodose lui dit, tu perds la tête. Oh non, c'est pas ta place. Ta place, elle est là-bas avec le peuple. Alors tu sors de là, s'il te plaît. Mais je suis l'empereur. Je m'en moque, tu sois l'empereur, ta place n'est pas dans le cœur. Mais à Constantinople, oui, mais tu n'es pas à Constantinople. Et le malheureux Théodose, rouge comme une pivoine, va devoir quitter le cœur et retourner s'asseoir à la place qui lui est réservée, humilié à mort et décidé à faire payer ça à Ambroise. Vous noterez qu'Ambroise, qui est un homme charmant, a l'art de se faire des amis. Et ça ne va pas s'arrêter là. À quelques semaines de là, Théodose va recevoir une lettre de Callinicée. Callinicée, c'est une petite ville à la frontière avec l'Empire perse. Toute petite ville, dont le seul intérêt est d'être une place frontalière. Vous savez que la Perse est l'ennemi héréditaire de Rome, que les incidents frontaliers sont perpétuels, que par conséquent, il faut faire très attention à tout ce qui se passe à la frontière. Et Callinicée possède une communauté juive assez importante, avec une belle synagogue. Et il se trouve que le 1er août, à Callinicée, les chrétiens célèbrent la fête des Saints Maccabées. Ça ne plaît pas aux juifs. Ils considèrent que c'est une récupération absolument honteuse de leurs martyrs et que les chrétiens n'ont pas le droit de célébrer les Maccabées. Et ça va mal tourner. En Orient, ces choses-là tournent toujours très mal. Les Juifs vont aller brûler l'église, et en contrepartie, les chrétiens vont aller brûler la synagogue. Toujours très sympathique. Mais ça se passe comme ça sans arrêt. Ça, c'est l'Orient. Ils passent leur temps à s'entremassacrer. Quand ce ne sont pas les Ariens contre les catholiques, ce sont les Juifs contre les autres chrétiens, les chrétiens contre les Juifs. C'est comme ça sans arrêt. Et les deux communautés vont écrire à Théodose pour se plaindre. les chrétiens vont dire, ce sont les juifs qui ont commencé, on voudrait qu'ils remboursent l'église. Et les juifs vont écrire, ce sont les chrétiens qui nous ont provoqués, on veut qu'ils remboursent la synagogue. Théodose va écrire en disant au clergé de Kaliniké, vous vous êtes très mal conduit, vous ne vous êtes pas montré de bon chrétien, vous n'auriez pas dû brûler la synagogue, vous avez 8 jours pour leur donner l'argent pour la reconstruire. Pourquoi cette décision, d'ailleurs parfaitement inique, puisqu'effectivement ce ne sont pas les chrétiens qui ont commencé? Eh bien parce que les juifs de Kaliniké ont la mauvaise habitude, quand les choses se passent mal, d'aller se plaindre chez les Perses. Ce qui donne aux Perses l'occasion d'intervenir et de s'emparer d'un bout du territoire syrien, c'est toujours très ennuyeux. Donc Théodose, au mépris de la justice, donne raison aux Juifs. Et quand Ambroise l'apprend, il se précipite, il dit « Qu'est-ce que j'apprends ? Tu as donné raison aux Juifs contre l'évêque ? En fait, tu es fou ?» Théodose, mais comment aussi me parler sur ce ton ? En lui disant « Moi, je te préviens, si tu ne fais pas le nécessaire, si tu ne préviens pas les Juifs de Kaliniké qu'on ne leur remboursera pas la synagogue, je te prends à témoin devant tout le peuple dimanche prochain pour dire que tu t'es mal conduit. » Dit Théodose, tu n'oserais pas. Chiche. Et effectivement, le dimanche suivant à la messe, Ambroise va monter en chaire et il va faire un discours flamboyant sur les devoirs d'un empereur chrétien. Théodose se sent à peine visé. Il est tellement furieux que quand Ambroise descend de chaire, il l'attrape. Il lui dit « Comment, évêque, as-tu osé prêcher contre moi ?» Ambroise le regarde et lui dit froidement « Mais Seigneur, je n'ai pas prêché contre toi, j'ai prêché pour toi. » C'est le genre de choses que Théodose a beaucoup, beaucoup de mal à admettre. Il va d'ailleurs partir pour Rome quelques semaines plus tard parce que la cohabitation avec Ambroise est pénible. Et à Rome, il va s'entendre comme larron en foire avec le cousin Symmaque. Pourtant, Théodose est un bon catholique. Mais Ambroise lui a vraiment, vraiment hérissé le poil. Ambroise, ça ne le gêne pas. Après tout, il est débarrassé de Théodose, il est tranquille à Milan. Il va en profiter pour écrire un nouveau traité, qui est le traité sur Naboth, qui est un traité admirable sur le mauvais usage des richesses. Il y a des formules tout à fait remarquables. Du temps où il était administrateur civil, Ambroise a eu tout le loisir de regarder cette aristocratie milanaise riche, tellement riche qu'on ne peut même pas l'imaginer, on n'imagine pas pourquoi pouvaient ressembler les fortunes de l'époque. Et ce qu'il dit, j'ai connu un riche quand il partait à sa maison de campagne, emporter exactement ce qu'il lui fallait de pain pour 8 ou 15 jours. Et il préférait manger du pain rassis pendant 15 jours que d'entamer ses réserves de farine. Et si par hasard son intendant lui apportait une omelette, il lui disait « Tu as cassé des œufs, tu m'as fait tordre autant de poulet. » Et Ambroise a des formules très dures, il dit « Les femmes aiment les chaînes pourvu qu'elles soient en or. J'ai vu des patriciennes qui mouraient de froid sous leurs voiles de soie et étouffées sous leurs diamants. » Oui, ces pierres sont belles, mais ce ne sont que des cailloux. Ne vois-tu pas le pauvre qui meurt de faim à ta porte, et toi, tu ne vois rien. Cet homme te devait 50 deniers. Tu l'as fait vendre pour payer sa dette, toi qui es milliardaire. Tu vas rentrer chez toi et te vanter de tes exploits. Ta femme va peut-être te dire, tu devrais avoir honte. Va racheter cet homme et pardonne-lui. Mais non, elle te dit, donne-moi les 50 deniers que tu as tirés de la vente de l'esclave, afin que j'aille m'acheter une parure. » Voilà ce que sont les riches chrétiens milanais. Ce traité sur Naboth est à tout point admirable parce qu'il n'a pas pris une ride. Malheureusement, ce sont des comportements qui existent encore. Et là encore, Ambroise ne va pas se faire que des amis. Beaucoup de gens vont se sentir visés. Et voilà que nous sommes au printemps 390. Au printemps 390, Théodose va prendre un arrêt, un édit qui va beaucoup faire parler de lui. C'est une des raisons pour lesquelles, à l'heure actuelle, la mémoire de Théodose est maudite, quasiment maudite. C'est un édit contre certaines pratiques homosexuelles. Un édit tellement sévère, d'ailleurs, que les coupables risquent le bûcher, rien que ça. Et justement, au printemps 390, à Thessalonique, en Grèce, il y a un orige champion, sorte d'idole du stade, dont tout le monde connaît les mœurs un peu spéciales. Et enfin, il ne faut pas toucher à l'orige, on ne va pas envoyer ce brave homme au bûcher, parce qu'on n'envoie pas au bûcher le grand gagnant de toutes les courses, l'homme qui fait la gloire de la ville. C'est impensable. Et il se trouve que à Thessalonique, le gouverneur romain, comme son nom ne l'indique pas, s'appelle Boutéric. Boutéric, c'est un germain, bien entendu. À Boutéric, il a bien essayé de se donner une façade de civilisation, il se fait appeler Boutéricos. Mais ce qu'il a de plus grec, lui aussi, sont ses mœurs. Et Boutéricos repère un petit garçon, très très charmant, très joli, dont il se dit, tiens, ça me ferait un gentil petit page. Mais malheureusement, l'aurige a exactement les mêmes goûts que lui. Il commence à se disputer le petit garçon. Mais Boutéricos, c'est le préfet. Et au bout d'un moment, il se dit, c'est bien cet édit de Théodose, bien, je vais faire arrêter l'aurige. Il fait arrêter l'aurige en l'accusant de mœurs contre nature. Qu'a-t-il fait? Est-ce qu'on arrête un dieu du stade à la veille des courses? La semaine prochaine, l'aurige devait courir. S'il n'est pas là, Thessalonique n'aura pas son champion. Il se ridiculisera devant toutes les autres villes de Grèce. Alors, les tifosi vont se pointer et dire « Préfet, tu peux nous rendre l'aurige ?» Non. Il va déclencher une émeute épouvantable. Boutéricos va être assassiné, ainsi d'ailleurs qu'un certain nombre de légionnaires. Et les survivants vont écrire à Théodose en disant « Thessaloniciens, ils sont épouvantables, ils ont assassiné Boutéricos. » Théodose, c'est un homme emporté, très, très emporté. Quand il reçoit la lettre l'avertissant de l'émeute de Thessalonique, il va prendre une décision, mais totalement disproportionnée. Il va envoyer l'ordre aux autorités militaires de Thessalonique d'attendre les prochains jeux, les prochaines courses. Toute la population va se rassembler quasiment dans le stade, et là, de massacrer systématiquement un spectateur sur deux. Et au cas où ça ne suffirait pas, d'aller faire un tour en ville et d'égorger également une personne sur deux. C'est évidemment totalement monstrueux. Mais sur l'instant, Théodose est absolument inconscient de ce qu'il a fait. Il envoie cette lettre, cet ordre monstrueux, et quand même quelqu'un au secrétariat, en recopiant la lettre, se dit « Mais enfin, on ne peut pas le laisser faire ça. Il ne va pas massacrer la moitié de la population de Thessalonique. » Et justement, il y a un synode qui a lieu à Versailles où Ambroise s'est rendu et il reçoit la nouvelle de la lettre que Théodose vient d'envoyer à Thessalonique. Il quitte Versailles en toute hâte, il se précipite à Milan en disant « Seigneur, enfin, tu n'as pas pu écrire ça, tu n'as pas pu donner un ordre pareil. C'est épouvantable. Est-ce que tu te rends compte que même Néron ne s'est jamais souillé les mains d'une chose pareille? Et toi, tu es chrétien, comment as-tu pu donner un ordre pareil ?» Théodose, qui s'est quand même un peu calmé en 8 jours, dit « J'ai peut-être eu tort. J'ai peut-être eu tort, mais enfin, c'est pas grave, je vais écrire pour dire que de contremander l'ordre. » Mais il se trouve qu'au secrétariat impérial, il y a un haut dignitaire qui n'aime pas Ambroise. Il se dit « Si Théodose contremande son ordre de décimation de la population de Thessalonique, on va dire qu'il ne sait pas ce qu'il veut. » Toujours fâcheux, un empereur qui ne sait pas ce qu'il veut. Il va donc retenir la lettre. Il va la retenir suffisamment longtemps pour qu'à Thessalonique, les ordres de Théodose soient exécutés à la lettre. Ce sera un massacre absolument abominable. Certains historiens antiques ont parlé de 100 000 morts, il ne faut peut-être pas aller jusque-là, mais on peut estimer qu'il y a eu au moins 30 000 victimes de la colère de Théodose. Et voilà que la nouvelle arrive. Théodose pensait que sa lettre était partie, que son ordre ne serait pas exécuté. Il est absolument sidéré, dépassé lui-même par ce qu'il a fait. Mais il n'est pas du genre à le dire. C'est Ambroise qui va une fois de plus le mettre en face de ses responsabilités. Il va lui dire, « Seigneur, tu es empereur, mais tu es un homme. » Tu n'es qu'un homme. Puisque tu es un homme, le péché est venu. Et puisque le péché est venu, il faut que tu le chasses. Et moi, parce que je suis évêque, il faut que je t'y aide. Et vois-tu, comme tu le sais, je n'ai pas le droit de célébrer la messe devant une seule personne dont je saurais qu'elle a les mains souillées de sang. Et toi, ce n'est pas le sang d'un seul innocent dont tu t'es souillé, c'est celui de milliers d'innocents. Il m'est interdit désormais de célébrer en ta présence. Et si tu venais à l'église, je serais obligé d'en sortir. Alors, empereur, je t'invite solennellement à faire pénitence. Si tu es chrétien, fais ce que je te demande. Sinon, pardonne-moi ce que je fais. Adieu ma préférence. Et il va envoyer cette lettre à Théodose. C'est une lettre quasiment insensée. Jamais aucun évêque n'aurait osé écrire cela à un empereur sauf Ambroise. D'ailleurs, c'est tellement insensé que Théodose va oser se présenter à la cathédrale le dimanche suivant. Et Ambroise, en le voyant, va descendre de l'autel et dit « Je t'avais prévenu, je ne peux pas célébrer devant toi. » Théodose va être obligé de se retirer. Il est privé des sacrements, il est de fait excommunié. Et voyez-vous, c'est peut-être le trait le plus extraordinaire de la vie d'Ambroise, parce que en cet automne 390, Ambroise fonde réellement la légitimité du pouvoir royal en Europe. Jusque-là, le pouvoir monarchique, au sens de pouvoir d'un seul, n'a jamais été qu'une tyrannie. Une tyrannie que rien ne venait tempérer, sinon, comme le disaient certains historiens, l'Empire romain a été une tyrannie tempérée par l'assassinat. Ce qui, évidemment, ne posait pas une situation politique très stable. Mais il est vrai que jusque-là, le pouvoir monarchique a été quelque chose d'incontrôlable. Même Théodose, empereur chrétien, pouvait se laisser aller à des accès de violence tels celui de Thessalonique. Et personne, jusqu'à ce jour, n'avait osé dire à l'empereur « Il y a une loi au-dessus de la tienne, et il y a un Dieu au-dessus de toi. » Personne avant Ambroise n'avait osé le lui dire en face. Et en mettant Théodose devant ses responsabilités, devant sa conscience et devant le salut de son âme, il fonde la légitimité chrétienne du pouvoir monarchique. Désormais, l'empereur ou le roi ne pourra plus jamais être un tyran, il sera toujours soumis aux lois de Dieu et il y aura l'Église pour lui rappeler ses devoirs. Et on va assister à ce spectacle inédit, le soir de la Noël 390, de Théodose faisant publiquement pénitence dans la basilique neuve devant tout Milan. Alors, Ambroise a un peu adouci les choses. Ce ne sont pas ces grandes pénitences qu'on a imposées d'ordinaire aux pénitents ordinaires. On voyait quelquefois certains pénitents qui devaient se coucher devant la porte de l'église et attendre que toute la paroisse leur soit passée sur le corps. Bon, on va quand même éviter de laisser piétiner l'empereur. Mais il n'empêche que le repentir public de Théodose est quelque chose d'absolument remarquable. D'autant plus remarquable que Théodose, au lieu d'en vouloir à Ambroise, se convertit pour de bon. Lui qui, quelques mois plus tôt, flattait encore Symmaque, au printemps 391, va faire purement et simplement interdire les sacrifices et les cultes païens. Au mois de juin, il fera fermer les temples, ce qui ne s'était là non plus jamais vu. C'est le triomphe d'Ambroise, le véritable triomphe. Puis, au printemps 391, Théodose va repartir pour l'Orient où la situation est difficile. Et il va laisser l'Empire d'Occident à son petit beau-frère, Valentinien, qui a 15 ans. Comme il n'est pas très sûr de ce gamin, il va confier Valentinien à un de ses officiers, un Germain, il n'y a plus que ça, le général Arbogast. Et Arbogast va partir pour Lyon en emmenant Valentinien II. Sur l'instant, ça n'inquiète pas tellement Ambroise qui se dit « Arbogast est un homme sûr ». Et pendant ce temps-là, il se remet au travail. Ambroise, il va écrire un très beau traité sur la virginité perpétuelle de Notre-Dame contre Bonnose. Bonnose, c'est un vous en reparlerai ce soir à propos de Saint Jérôme. Bonnose, c'est un laïc romain qui s'est mis en tête d'expliquer que, puisqu'on parlait des frères du Seigneur, c'est que la Vierge Marie avait eu d'autres enfants. Bon, vous savez que soit Jérôme que soit Saint Ambroise, ils ont fait leur lit de ce genre de propos. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça ressort encore. Il y a quelques années, un prétendu historien français a commencé son histoire, une biographie consacrée à la Vierge Marie en expliquant qu'elle était mère de famille nombreuse. Il présentait le texte de Bonnose comme un texte totalement inconnu et caché par l'Église. Un texte caché par l'Église et réfuté par saint Ambroise et par saint Jérôme, c'est toujours très drôle. Et occupé de tout cela, Ambroise ne s'inquiète pas trop de Valentinien. Pourtant, il aime beaucoup Valentinien. Il l'a pris sous sa protection. Et voilà qu'au printemps 392, il reçoit une lettre de Lyon, une lettre de Valentinien. « S'il te plaît, Seigneur évêque, viens tout de suite. Viens tout de suite, je voudrais être baptisé. » Ambroise se dit, mais il y a autre chose. Il y a certainement autre chose, qu'est-ce qui se passe? Et malade d'inquiétude, il part pour Lyon, toutes affaires cessantes. Et il n'est pas encore arrivé dans les cols alpins qu'il voit arriver un messager qui vient de Lyon, qui lui dit, tu venais voir Valentinien, c'est trop tard. Il est mort. Il dit, Ambroise, il est mort? Oui, puisqu'il faut te dire les choses. Ça va te faire de la peine, mais vaut mieux te le dire. Il s'est suicidé. Ambroise est complètement anéanti. C'est pas possible. Ah, si, si, tu peux retourner à Milan, ça ne sert plus à rien. Valentinien s'est pendu. Et alors là, pour Ambroise, il déclic. Pour un Romain, se pendre, c'est le comble du déshonneur. On ne se pend pas. Suicidez-vous comme bon vous semble, mais n'allez pas vous pendre. Ça, vraiment, vraiment, c'est impossible. Il se dit, ce n'est pas possible. On me dirait qu'il s'est jeté sur son glaive, qu'il s'est empoisonné, qu'il s'est ouvert les veines, je l'admettrai. Mais il ne s'est pas pendu. Il ne peut pas s'être pendu. Et il se dit, s'il ne s'est pas pendu, c'est qu'il ne s'est pas suicidé. S'il ne s'est pas suicidé, c'est qu'on l'a suicidé. Et qui avait intérêt à le suicider? Eh bien, Arbogast, bien entendu. Arbogast qui avait envie de garder le pouvoir pour lui. Et les soupçons d'Ambroise sont parfaitement fondés. Arbogast a en effet liquidé Valentinien II. Peut-être accidentellement, mais le fait est qu'il l'a tué. Mais Arbogast, à peine a-t-il assassiné Valentinien, s'aperçoit d'un petit détail, c'est que l'Empire n'est pas encore tombé assez bas qu'on puisse accéder à la pourpre quand on est un barbare. Alors, il va chercher dans son entourage, il y a un professeur de philosophie, un certain Eugène, chrétien, c'est mieux parce qu'Arbogast est païen, lui. Et il dit à Eugène, est-ce que tu ne voudrais pas me servir d'homme de paille? Empereur, c'est bien, ça fait bien sur une carte de visite. Et Eugène est assez bête pour dire oui. Et Arbogast, qui est un bon militaire, va marcher sur l'Italie. Il va passer les Alpes en traînant Eugène derrière lui. Et la première chose qu'il va faire, c'est d'entrer à Milan, d'où justement Ambroise vient de partir, parce qu'il ne veut pas se compromettre avec l'assassin de Valentinien. Ambroise est parti pour Florence, où il va rester 18 mois. Et pendant ce temps-là, Arbogast va voir arriver. Qui va-t-il voir arriver? Le cousin Simac, l'éternel cousin Simac. Cher nouvel empereur, pourrais-tu rétablir l'autel de la victoire? Pourrais-tu rendre leur subside au culte païen? Et Arbogast dit, mais bien sûr, mon cher Simac, tu peux remettre l'autel de la victoire au Sénat, tu peux rouvrir les temples, tout va très bien, je suis de ton côté. Vous comprenez bien, évidemment, que depuis Florence, Ambroise a des raisons de s'inquiéter. Il a des raisons de s'inquiéter, mais il est de plus en plus prodigieux. Il loge chez des patriciens. Et un après-midi, son hôtesse, Pansophia, lui dit « Il vient d'arriver un grand malheur, mon fils est mort. » Dit Ambroise, je suis navré. Que puis-je faire pour t'aider? Va lui imposer les mains. Dit Ambroise, pour qui me prends-tu? Comment veux-tu que je ressuscite un mort? Pour qui me prends-tu? Je ne peux pas faire ça. Bonne Sophia lui dit, très bien, je n'assiste pas. Mais elle va porter le cadavre de son fils sur le lit d'Ambroise. Et quand Ambroise va rentrer dans sa chambre, il va tomber sur le petit Pansophius. Et pris de pitié devant la foi immense de Pansophia, il se dit après tout, « Seigneur, ce n'est pas moi le thaumaturge, c'est vous qui pouvez tout. » Et il va rendre Pansophius vivant à sa mère. Et là, évidemment, le bruit de ce miracle gigantesque va se répandre. On va commencer à se dire que la victoire des païens n'est pas aussi acquise qu'elle en a l'air. Malheureusement, pendant ce temps-là, on pourrait espérer l'arrivée de Théodose qui viendrait régler son compte à Eugène. D'ailleurs, Ambroise lui a écrit pour lui demander de l'aide. Mais Théodose est retenu à Constantinople parce que Galla, sa femme adorée, attend un enfant. Il ne veut pas partir avant la naissance de cet enfant. Ce sera une petite fille qui naîtra le printemps suivant. Malheureusement, la princesse Galla n'y survivra pas. Et après la mort de sa femme, Théodose se dit, je dois m'occuper des devoirs de l'Empire. Il va repartir vers l'Europe. Et il y a à Constantinople un certain Jean, qui a le don de prophétie, qui lui dit, Seigneur, si tu repars pour l'Europe, tu remporteras une grande victoire, mais tu ne reviendras jamais à Constantinople. La mort t'attend là-bas. Théodose dit, peu m'importe, mon devoir d'abord. Et il repart effectivement vers l'Italie, et un peu avant d'arriver à Aquilée, il va se heurter aux troupes d'Arbogast. Les troupes d'Arbogast, renforcées de troupes italiennes, largement formées du parti païen. Des troupes tellement brillantes qu'à un moment, on peut douter de la victoire de Théodose. La bataille va se livrer auprès d'une petite rivière qui s'appelle le Frigidus, bien nommée, c'est un torrent glacial, dans une vallée assez encaissée. C'est, du point de vue stratégique, une des pires situations possibles. Et d'ailleurs, Théodose ne va pas tarder à s'apercevoir qu'en fait, il est coincé. Il est pris entre deux falaises en apic, il ne peut quasiment pas reculer. Et Arbogast, lui, tient le terrain de manière beaucoup plus efficace. La bataille est très mal engagée. Et il va advenir quelque chose de tout à fait surprenant. Nous sommes au mois de septembre. Et dans la région, l'hiver souffle un vent qui s'appelle la Bora, qui est un vent extrêmement froid, extrêmement violent, avec des bourrasques soudaines, mais qui ne souffle jamais, au grand jamais, au mois de septembre. Et d'un seul coup, alors que les troupes d'Arbogast, en position favorable, passent à l'attaque, et qu'elles commencent à décocher des volées de flèches sur les troupes de Théodose, la Bora se lève. Et elle se lève dans le dos des troupes de Théodose, tant et si bien que quand les flèches des archers d'Arbogast commencent à siffler, eh bien la Bora les repousse vers ceux qui les ont tirés. Ce qui provoque évidemment une panique folle. Les troupes d'Arbogast, persuadées que les dieux sont contre eux, vont se débander. Ce sera pour Théodose une victoire immense. Il rentre une nouvelle fois à Milan, en triomphateur. Mais il y rentre pour mourir le 17 janvier 395, comme l'avait prédit Jean l'Ermite à Constantinople. Théodose rend l'âme dans les bras de saint Ambroise. Avant de mourir, il lui confie la tutelle de ses deux jeunes fils, Arcadius et Honorius, et plus particulièrement celle d'Honorius à qui il a confié l'Empire d'Occident. D'un point de vue plus militaire, la régence de l'Empire est confiée encore à un général barbare nommé Stilicone. Mais contre toute attente, cette régence à deux têtes de l'Empire d'Occident, Ambroise Stilicone, se passe plutôt bien. D'autant que Ambroise a su d'emblée mettre les choses au point. Il y a dans l'entourage de Stilicone un haut fonctionnaire qui s'appelle Cresconius. Cresconius est un pourri. Et un jour, Stilicone en a un peu assez. Il dit, ça va bien, il faut que je fasse un exemple. Je vais jeter Cresconius aux bêtes. Et il donne l'ordre d'arrêter Cresconius. Quelqu'un a eu la charité de le prévenir. Et qu'a fait Cresconius, pris de panique, il s'est rué à la cathédrale. Il est couché devant l'autel, il embrasse l'autel. Le droit d'asile étant ce qu'il est, normalement, personne n'est censé aller le chercher dans la cathédrale. Mais Stilicone, c'est un barbare, il est païen. Et ça ne le gêne pas, ses troupes non plus, on va violer le droit d'asile, on va arracher Stilicone de l'autel. On va le jeter dans l'arène au milieu des panthères et des tigres. Et Ambroise apprend ça, il dit, mais tu n'avais pas le droit, tu as violé le droit d'asile, comment as-tu osé faire ça? Tu vas t'en repentir, Stilicone. Et à ce moment-là, il y a le malheureux Cresconius dans l'arène avec les fauves autour de lui. Et d'un seul coup, les fauves, au lieu de s'intéresser à Stilicone, vont bondir vers les gradins de la loge impériale et commencer à mettre en morceaux les gardes de Stilicone. Il a déjà fallu un bond prodigieux pour qu'ils arrivent jusqu'à la loge impériale. Normalement, elle est assez haute pour éviter ce genre de problème. Et évidemment, tout le monde crie au miracle. Stilicone est obligé de gracier Cresconius. À partir de ce moment-là, il comprend que le partage du pouvoir avec Ambroise sera peut-être plus problématique qu'il ne l'imaginait. Mais il admire tellement Ambroise qu'il se soumet volontiers. Pourtant, la situation est mauvaise. Les barbares sont de plus en plus présents aux frontières. Et en même temps, il y a une sorte de perte de l'esprit chrétien qui inquiète Ambroise. Il est particulièrement inquiet quand on lui signale le cas d'une religieuse véronaise, Indizia. Alors, à la différence de sa sœur Marcellina, qui avait créé un véritable couvent avec, en rassemblant ses religieuses autour d'elle, beaucoup de consacrés à l'époque vivent seuls. Ce qui est toujours évidemment extrêmement dangereux parce que il y a celles qui en profitent pour faire n'importe quoi. Saint Jérôme a des pages extraordinaires à ce sujet. Puis il y a aussi celles qui se conduisent parfaitement bien, mais qui ne peuvent pas le prouver. Cette malheureuse Indizia, un certain nombre de gens à Vérone qui ne l'aiment pas, qui vont commencer à raconter qu'elle reçoit des hommes chez elle, et puis qu'elle a eu des enfants qu'elle cache. On va enquêter. Comme on ne trouve pas les enfants d'Indizia, on va déclarer qu'elle les a tués à la naissance. On va prévenir Ambroise qu'il y a le cas de cette religieuse absolument scandaleuse. Et Ambroise va enquêter, il va découvrir qu'Indizia est innocente. Elle n'est coupable de rien de tout ça, c'est ce qu'il dit. Comment une religieuse jusque-là insoupçonnable pourrait-elle être adultère, mère de famille nombreuse et infanticide de surcroît? Et il va laver l'honneur d'Indizia, il va avoir des pages admirables pour laver l'honneur d'Indizia. Mais il est tellement dégoûté de ce genre d'accusation qu'il soupire « qui ne voit ?»« Qui ne voit que la fin du monde est proche ?» Ambroise a raison. D'une certaine manière, la fin du monde est proche, mais pas la fin du monde en son ensemble, la fin de son monde à lui. Et c'est cela qui l'inquiète. Au mois de mars 397, Ambroise part en tournée pastorale dans son diocèse, qui est vaste. Il va tomber malade. Il n'a jamais eu une santé extrêmement robuste. Il ne s'est jamais ménagé, il tombe gravement malade. Il va quand même trouver la force de rentrer à Milan. Il va se coucher, il ne se relèvera plus. En apprenant la maladie d'Ambroise, qu'il est quasiment à l'agonie, Stilicone va s'écrier « Si Ambroise meurt, c'en est fait de l'Italie et de l'Empire. » Cette prophétie s'avérera malheureusement plus justifiée qu'on ne pouvait le croire. L'agonie d'Ambroise va se prolonger une quinzaine de jours et son clergé est très inquiet. Ambroise n'a que 54 ans. Personne n'avait songé à le remplacer. Que va-t-il se passer sans lui ? Qui va-t-on trouver pour lui succéder? Et quelqu'un a dit, ah bien, il y a bien Simplicianus. Simplicianus, vous vous souvenez, c'est ce vieux prêtre qui avait catéchisé Ambroise quand il avait été élu évêque. Et Ambroise est couché dans sa chambre, on n'a pas fermé la porte, et depuis le couloir, il entend ses conversations. On est déjà en train de le remplacer, c'est toujours très agréable. Et il entend parler de Simplicianus. Et du fond de son lit, crie « Bonne idée, il est vieux, mais il est très bien. » Et effectivement, Simplicianus lui succédera. Et on veille Ambroise, on espère encore qu'il guérira, c'est ce qu'on dit, on implore un miracle. Mais Ambroise ne veut pas de miracle. Le 3 avril 397, vers 1h du matin, l'évêque de Versailles, Honoratus, qui dormait profondément, entend une voix, qui doit être celle de son ange gardien, qui dit « Honoratus, réveille-toi. Réveille-toi, Ambroise s'en va. » Honoratus qui replonge dans son oreiller. Deux secondes plus tard, il se sent secoué par l'épaule. Honneur à tous, lève-toi vite, embrassant, va. Toujours aussi endormi. Puis la voix se fait plus forte, on le secoue de plus en plus fort. Honneur à tous, lève-toi, si tu ne te dépêches pas, embrasse sera parti. Et Honneur à tous finit par se réveiller pour de bon, il se précipite. Et effectivement, Ambroise est en train de mourir, il lui reste juste assez de conscience pour pouvoir communier une dernière fois. À 3 heures du matin, la nuit du 4 avril 397, Saint Ambroise meurt. On est en pleine vigile pascale, c'est l'heure où les baptisés quittent le baptistère à la cathédrale. Et les Milanais étaient très tristes, leur évêque n'était pas là en cette nuit de Pâques. Et à ce moment-là, il y a des enfants qui s'écrient « Oh, Ambroise est arrivé, il est là, regardez, il est là, oh comme il est beau, comme il est splendide, c'est magnifique ces étoiles qui brillent sur sa tête. » Et à part les enfants, personne ne le voit. Et les Milanais comprennent qu'Ambroise est mort, qu'il est entré dans la gloire éternelle. Alors, Ambroise, c'est à la fois un exégète, un théologien, un grand théologien d'ailleurs, mais c'est aussi un politique, un grand politique, l'un des derniers grands politiciens romains. Il est évident que le rêve d'Ambroise a été de créer un empire catholique digne de ce nom. S'il avait vécu quelques années de plus, la face du monde en aurait peut-être été changée. L'Empire romain aurait peut-être survécu en Occident. Il n'en a pas été ainsi, mais Ambroise reste l'une des plus grandes figures épiscopales de l'histoire de l'Église. Et comme je ne désespère pas, messieurs les abbés, messieurs les chanoines, qu'il se trouve parmi vous quelques futurs évêques, j'espère que ce jour-là, quand vous accéderez à votre trône épiscopal, vous vous souviendrez de saint Ambroise, que vous prendrez exemple sur lui. Si vous avez des questions, vous n'hésitez évidemment pas. Non. Vous avez faim. Dans ce cas-là, si vous avez des questions à l'esprit, vous me les poserez ce soir à propos de Saint Jérôme.